Bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de la saison 2021 de La Chose Commune, dernier numéro de l'année. La Chose Commune revient évidemment en 2022 et pour ce dernier numéro de l'année, on avait envie évidemment de se mettre aux couleurs de la période, c'est-à-dire de parler de Noël. Noël, grande fête de la consommation s'il en est, mais ce n'est pas parce que on est soumis au diktat de cette pression consumériste que l'on ne peut pas réfléchir à notre mode de consommation et nos achats que nous allons faire pour que Noël reste une grande fête où on se fait plaisir et où on fait plaisir aux autres. Et pour évoquer évidemment un Noël écologique, social et responsable, qui de mieux que des acteurs de ces achats socialement et écologiquement responsables que des représentants des bonnes manières de la ressourcerie de Blois. Bonjour Cédric Marmuse.
Bonjour.
Et bonjour Marie Fournet.
Bonjour.
Merci donc d'être là pour ce dernier numéro de La Chose Commune. On vous a déjà reçu plusieurs fois pour cette émission et puis on s'est vu il n'y a pas très longtemps pour la fête de la récup, mais on s'est dit que voilà, pour ce numéro de La Chose Commune un peu spécial Noël, l'occasion de vous réinviter était pertinente. Donc on va quand même vous laisser représenter la structure et puis après on va discuter évidemment de tout ce que vous faites et notamment autour des achats et de la boutique de la ressourcerie qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui.
Alors la ressourcerie, c'est une histoire qui a commencé en 2016, pour le grand public en 2017, c'est vraiment là où on a commencé à ouvrir. Toujours au même endroit, on a ouvert là où on est encore actuellement, au 59 avenue du Président Wilson à Blois. Depuis 2020, on s'est un petit peu agrandi. On a aussi l'adresse du 55 avenue du Président Wilson. Donc au 59, c'est vraiment la boutique qui s'est agrandie. Hein. Au début, on avait commencé, on avait 70 mètres carrés. Maintenant, on a environ 300 mètres carrés. Et puis là, au 55, on a ouvert un dépôt et un stock où on s'affaire notamment pour la valorisation des objets, à trier ce qu'on peut mettre en vente, à trier ce qu'on peut amener au recyclage. Etc. Donc aujourd'hui, la ressourcerie, c'est 7 salariés, c'est actuellement 4 services civiques. Depuis ce matin, c'est aussi un contrat d'apprentissage. Et puis, toujours depuis le début, de nombreux bénévoles fidèles au poste, avec une équipe qui s'est étoffée. On a aujourd'hui une quarantaine de bénévoles qui viennent parfois très régulièrement, parfois une fois par mois, parfois une fois par trimestre. Mais certains peuvent être là parfois toute la semaine. Mmh. Donc voilà, merci à eux. Donc la ressourcerie, elle a quatre fonctions principales de son activité. Elle collecte. Depuis 2020, en plus des apports volontaires au 55 avenue du Président Wilson à Blois, on collecte également grâce à Aglopolis dans les déchetteries, à celle de Chouzy-sur-Cisse, puis plus récemment là celle de la Chaussée Saint-Victor. Donc une fois que tout ça arrive à la ressourcerie, il y a la partie valorisation. Valorisation, c'est en effet ce que je disais un peu tout à l'heure, trier. Voilà, le bon du moins bon, de ce qui est vendable, pas vendable, recyclable, pas recyclable. Et puis la troisième fonction d'une ressourcerie, on va en parler du coup après, c'est la vente, évidemment, puisque pour écouler tout ce flux d'objets, on les revend à prix pas cher. Et puis il y a une quatrième fonction dans une ressourcerie, c'est la sensibilisation, c'est-à-dire sensibiliser les gens à consommer autrement, à allonger la durée de vie des objets, bref, faire en sorte qu'on préserve nos ressources avec de la seconde main.
Et pour cette dernière partie de votre activité, vous avez donc parmi les salariés, j'imagine, un animateur ou une animatrice, ou plusieurs d'ailleurs, qui font de la sensibilisation à l'environnement, du Repair Café et ce genre de choses, j'imagine.
Absolument.
Ouais, c'est ça.
Oui, alors on a Anne, qu'on salue, qui est notre animatrice en chef, qui se fait accompagner soit par des services civiques, soit par des bénévoles. Voilà, l'idée, c'est qu'il y a différents statuts qui cohabitent chez nous. Je vais continuer un peu et je réponds à votre question après, c'est vrai que j'oublie aussi de parler des personnes qui peuvent venir en mission en travail d'intérêt général, les personnes en mission d'intérêt général dans le cadre du service national universel.
Ouais, d'accord.
J'oublie également les chantiers éducatifs avec les SPS. Enfin, voilà,
on est à deux doigts de la multinationale, là, quand même.
Oui,
non, c'est pas le but.
On essaye aussi d'être accueillant, c'est-à-dire qu'on se rend service. Hein. En fait, il y a des gens qui ont besoin de rendre service à la société, et ils le font en passant par la ressourcerie. Voilà, c'est du donnant.
Et puis c'est
donnant.
Aussi une sensibilisation pour ces personnes-là, tous les SNU, services civiques, de valoriser aussi une expérience et potentiellement de les garder comme bénévoles ensuite, leur donner envie de
tout
s'investir.
Tout à fait, c'est supposer, hyper important ce que vous venez de pointer, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que nous, on n'est ni chantier d'insertion,
ni
on est une structure qu'on appelle d'emploi pérenne. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on est assez fiers de ça quand même.
Ouais,
on est sur les 7 salariés, il y en a quand même 3 en CDI actuellement. À partir de janvier, ce sera 5.
Super.
Donc voilà, là, on arrive à plus de 4 ans d'activité on arrive aussi à cette étape, puisque l'idée, c'est aussi de créer de l'économie, de créer des emplois grâce à ces ressources, grâce à ces objets. Ouais. Donc voilà, le pari est en phase d'être gagné. Et en effet, il y a aussi toutes ces personnes autour qui gravitent, qui viennent accompagner cette activité, qui permettent à des gens d'avoir des emplois, comme
tout
nous, et qui, en même temps, œuvrent à la réduction des déchets par l'action de la ressourcerie. Et donc, en effet...
aussi que ces métiers-là existent aussi pour les gens qui viennent chez nous, que ces métiers-là, ils sont accessibles et qu'ils peuvent être pérenne, comme dit Cédric, et que c'est un modèle économique qui est différent de ce qu'on a habituellement, quoi. Donc c'est forcément intéressant, je pense, pour les gens qui nous rejoignent, quoi.
Ouais, l'idée, c'est de faire un peu autrement, et en effet, d'avoir tous ces gens qui cohabitent, c'est aussi, ça rentre dans la fonction sensibilisation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui arrivent, parfois avec une petite conscience écologique, mais quand on fait face au flux d'objets qu'on traite, on se rend compte qu'en effet, il y a un petit souci au niveau de notre société de surconsommation, et donc ça permet vraiment... à n'importe qui, à des habitants, à des personnes qui doivent effectuer une mission, comme j'ai cité précédemment, de se rendre compte réellement de la réalité. Et donc, sur le volet sensibilisation, on a aussi une partie un peu plus ludique. Ça, c'est la partie, en effet, de Anne, qui propose des ateliers créatifs. Ça peut être de la mosaïque, ça peut être des éponges lavables, ça peut être des attrape-rêves, à partir de matériaux
que vous récupérez.
Qu'on récupère, évidemment. C'est alors évidemment en termes de flux c'est très très peu mais ça permet surtout de montrer que les gens peuvent le faire chez eux et on a aussi la partie Repair Café, réparation, que ce soit sur les ateliers couture apprendre
à réparer soi-même
ou les appareils électriques donc sur les Repair Café, on en a tous les premiers du mois. On a tous les premiers vendredis du mois, c'est électro, Repair Café électro. Et tous les premiers samedis du mois, c'est couture.
D'accord.
Et après, vous avez des animations, c'est des programmes qui sont faits par trimestre.
Ouais.
Du coup, qui sont assez. Qui sont distribués en boutique et globalement un peu partout dans Blois, qui permettent du coup aussi aux gens d'être un peu créatifs aussi sur certaines choses. Et puis sur la couture, par exemple, on a vu que ça peut être utile. Parfois, pendant la crise Covid, les masques lavables, c'était quand même plutôt pratique.
C'était bien, oui.
Donc, c'est des savoir-faire qu'on. C'est aussi du savoir-faire qu'on veut transmettre, quoi.
Bien
de
sûr.
Savoir comment. Comment on répare un objet tandis qu'il est abîmé au lieu de le jeter. Aujourd'hui, on sait que c'est pas la majorité des gens qui font ça. Donc ça reste aussi des savoir-faire qu'on veut transmettre et ça reste de la sensibilisation, quoi.
Eh ben, on a fait pas mal le tour déjà en termes de présentation. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Je ne vous apprends pas que le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. J'imagine que certaines de vos actions tournent autour de ça. En tout cas, qu'il y a de la valorisation autour de
nous, c'est toute l'année.
J'imagine.
C'est l'année de l'économie sociale et solidaire.
J'imagine. J'ai appris dans ce mois de novembre qu'au sein de ce mois de l'économie sociale et solidaire, il y avait la semaine des achats socialement et écologiquement responsables. Donc on vient au fait. Donc dans votre boutique, les produits que vous réparez, en tout cas revalorisez pour les remettre en vente, quels sont-ils? Qu'est-ce qu'on trouve dans cette boutique de la ressourcerie des bonnes manières?
Alors on va trouver de la vaisselle, on va trouver des livres, des vêtements, des meubles, tout ce qui va être du bricolage. On va trouver également ce qui va être décoration, un peu, soit les cadres, de la mercerie également, du matériel pour la couture, par exemple. Et globalement, tout ce qui va être aussi... Périculture. Donc ça reste quand même, on récupère quasiment tout en fait, hein, sur ce qui n'est pas consommable en fait. Mmh. C'est ce qui n'a pas.
Mais vous n'êtes pas l'aide alimentaire, c'est pour voilà. C'est
exactement. Ça. En fait, on rentre d'où dans ce qu'on
et
appelle.
Vous n'avez pas de capacité de stockage pour l'alimentaire.
Oui, puis tout simplement, on est dans un secteur d'activité qui s'appelle le traitement des déchets non dangereux, mmh. même si c'est un peu obsolète parce qu'on ne traite pas des déchets puisqu'on les valorise pour que ce ne soit plus des déchets. Mais donc, les seules restrictions, c'est tout ce qui peut être en effet dangereux. Des appareils thermiques, des appareils au gaz, des consommables sur lesquels on ne peut pas avoir, nous, de respecter les normes de péremption, de choses comme ça. Donc ça, on va pas, voilà, c'est les seules choses qu'on ne va pas
les
trouver dans une ressourcerie.
Les shampoings, tout ça, on ne pourra pas récupérer, par exemple.
Mmh, bien sûr, oui. Et alors du coup, donc des vêtements, toute taille j'imagine, ouais. Vous parliez de puériculture, mais ça va aussi aux adultes, vêtements de sport, costumes j'imagine, enfin ce genre de choses.
Tout ce qui va avoir linge de maison, tes vêtements, chaussures.
Actuellement on a des combinaisons de ski.
Exactement, c'est la période.
On fonctionne par saison aussi, j'imagine que dans les bacs, là où il y a moins de maillots de bain que de combinaisons de ski potentiellement, enfin ce genre de choses aussi, vous fonctionnez comme une. Alors, notamment sur les vêtements, vous fonctionnez comme une boutique de saison, c'est-à-dire qu'on valorise aussi en fonction des saisons. On va ranger les gros manteaux pour le printemps-été et puis on va les ressortir quand le mois de septembre-octobre arrive, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un calendrier aussi qui s'opère pour gérer les stocks.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je ne sais pas si Marie, tu veux parler un peu.
On va stocker directement, parce que là, actuellement, on va stocker l'été, ça ne va pas être en boutique. Par contre, ça ressortira en effet au moment de l'été, du coup, l'hiver c'est pareil, du coup tout ce qui est décoration de Noël, on le stocke tout au long de l'année, donc là on l'a sorti en novembre si je dis pas de bêtises, et c'est encore en boutique, donc ça c'est des choses qu'on cumule le long de l'année, puis on fait un grand déballage en fonction des saisons.
Au niveau des objets, j'en viens notamment, je vous ai invité pour parler de Noël un petit peu, au niveau des jeux, des jouets, ce genre de choses, et même plus globalement, mais quelle est la limite pour quand vous récupérez, quand on vient vous faire don ou que vous récupérez dans les différentes structures avec lesquelles vous travaillez des objets, quelle est la limite, comment le choix s'opère entre ce qui va pouvoir être revalorisé, ce qui finalement va rester dans la déchetterie, enfin, vraiment pour le coup. Dans le déchet, en fait, comme on dit.
C'est une bonne question pour les jouets, parce que pour le coup, les jouets, on n'a pas de filière de recyclage, parce que c'est majoritairement du plastique. Ouais. Et du coup, on va choisir en fonction de l'état. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est un plastique qui est trop jauni, par exemple, sur une maison de poupée ou quelque chose comme ça, ça va partir directement. Donc, nous, on n'a pas de filière. Donc là, on va essayer de le mettre prioritairement en gratuité. En fait, on a un espace gratuité qui permet aussi d'écouler un certain nombre d'objets qui ne sont pas bons à la vente, mais qui pourraient éventuellement quand même servir pour une nouvelle vie. Et si vraiment c'est trop en mauvais état, là, du coup, ça part en tout venant, quoi. Ouais, mais ça reste vraiment une très faible quantité d'objets, globalement, sur ce qu'on a. On essaye majoritairement de valoriser, de mettre en gratuité ou de mettre à des prix vraiment très... On va fixer le prix aussi en fonction de l'état. Les jouets, c'est entre 50 centimes et 5 euros maximum, quoi, sur les...
Oui, ça dépend ce que c'est. Quand
ça,
on
si
a,
c'est du vintage...
Des choses un peu vintage ou des super circuits de petits trains avec tout l'ensemble. Voilà, on peut avoir exceptionnellement des jouets un peu plus chers. Mais oui, sur les jouets courants, les jeux de société, les poupées, les peluches, etc. Oui, on est entre 50 centimes et 5 euros, quoi.
Et il me semble, pour fréquenter aussi, moi, ces lieux-là, que... on peut trouver, alors typiquement je prends une boîte de jeu ou une boîte de puzzle, quelque chose de très abîmé, de relativement abîmé on va dire, mais qu'il faut rappeler je crois que la valeur du contenant n'est pas la valeur du contenu, j'imagine que ça vous travaillez aussi là-dessus, voilà une boîte de jeu qui va être abîmée, on peut la rafistoler etc, mais si l'intérieur, enfin si le jeu ou le puzzle est complet, que les pièces sont propres etc, il n'y a aucune raison de ne pas le valoriser j'imagine.
Oui c'est ça, c'est juste on va peut-être baisser un peu le prix par rapport à un objet qui va être avec un contenant hyper neuf. Mais globalement, ça part en boutique. À partir du moment où c'est complet, on essaye de valoriser et de remettre directement en boutique pour que ça parte pour une nouvelle vie, quoi.
Et parfois, le hasard fait bien les choses. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux jeux de société incomplets qui arrivent à peu près au même moment et on peut en refaire un avec les deux.
Bien sûr.
Voilà.
Puis on vend aussi les pièces de jeu séparément. Typiquement, un jeu, je vous dis n'importe quoi, un jeu de petits chevaux. Il n'est pas complet, il va manquer des choses. Bon, on va récupérer les pièces de petits chevaux, on va récupérer les dés, on va récupérer le plateau et puis au final, on va essayer de mettre ça en vente séparément. L'idée, c'est toujours aussi de sauver le maximum de matière possible de la poubelle, quoi.
Voilà, et si vous, vous avez perdu vos dés à un jeu de société, vous pouvez aussi en racheter à la ressourcerie.
Mmh. Exactement.
Et bah, du coup, ça me fait une bonne transition pour ma nouvelle question. On va rentrer dans l'arrière-boutique, du coup. Vous parlez voilà, d'aller piocher dans différentes... dans des objets de même type pour rafistoler, reconstruire, recompléter des choses. Donc, comment ça se passe? Il y a un vrai travail aussi. Derrière, il y a du temps à passer, des fois, ouais. Reconstruire, recompléter, comme on disait. Et moi, la question que je me posais, c'est cette fameuse arrière-boutique, puisque, à l'instar d'une grande surface, votre surface de vente est différente de votre surface, de votre espace de travail. Est-ce que vous avez des problèmes de stockage à l'année? Comment ça se passe, la gestion de votre stock?
Ça va mieux.
On va s'envoyer des fleurs, mais ça va mieux. Alors, on a le nouveau stock depuis un peu plus d'un an. Donc, ouais. C'est vrai qu'on a dissocié...
Votre nouvelle adresse dont vous parliez tout à l'heure.
Voilà, le 55 qui est vraiment à proximité.
30 mètres,
On est à 30 mètres, donc c'est pratique. On a juste un trottoir entre les deux. Alors, pour plusieurs raisons, en fait, à cause de la crise Covid, on a été obligé de faire des dépôts sur rendez-vous. Aujourd'hui, on serait plus contraint à ça par rapport aux conditions sanitaires. Enfin, quoique là, en ce moment, on ne sait pas trop.
Mais, mais pour l'instant...
On a bien fait de ne pas les faire...
Faire sauter.
À l'heure où on enregistre.
Voilà, à l'heure où on enregistre. Mais en tout cas, ça nous a permis de réguler en fait, le flux. Ce qui était très compliqué, c'est qu'on pouvait avoir des jours creux où il n'y avait pas beaucoup de dépôts et le jour d'après, se faire exploser littéralement. Et là, on se retrouve face à une montagne d'objets. Ce n'est pas forcément le jour où les bénévoles ont décidé de venir.
Ouais.
Enfin, bon, voilà. Donc, ça pouvait créer des situations un peu compliquées. Aujourd'hui, du coup, grâce à ce système de rendez-vous, même si, évidemment, la gestion de rendez-vous, c'est un travail un peu supplémentaire, mais au moins, sur on a une gestion des flux qui est un peu plus régulière. Donc, on arrive à gérer. Et heureusement, je crois que sur le volet consommation responsable, on a quand même des usagers qui répondent à l'appel et qui sont de plus en plus nombreux. Donc, on arrive aussi à écouler de plus en plus grâce à la boutique.
Mais pour le coup, la crise Covid sur la fréquentation de la boutique, c'est vrai qu'on a vu que quand même, ça avait quand même, il y a plus de gens qui ont envie de consommer responsable quand même depuis, qui viennent vraiment pour des raisons écologiques. Et bien sûr, il y a quand même un attrait du prix de certains objets. Mais globalement, on a vu quand même qu'il y avait une hausse de la fréquentation pour ça, quoi. Donc on touche quand même malgré tout des gens, quoi.
On touche, ça c'est un pari qui était initialement... il y a d'autres structures de réemploi qui existent, Emmaüs, etc., où on a souvent tendance à dire qu'on fait à peu près le même métier, même si eux, ils sont plus dans une logique de solidarité. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas solidaire, mais notre but, c'est vraiment la réduction des déchets. Et donc, il faut aussi une mixité en fait, de population, et je crois qu'on l'a trouvé. Alors, c'est aussi grâce au quartier dans lequel on est, parce que le quartier Bloivienne, c'est un quartier où il y a une vraie mixité, on a vraiment différentes. Puis, on a aussi les lignes de bus, on est hyper bien desservis. Qui arrivent, on a des lignes de bus qui vont direct au centre-ville, quartier nord. Donc c'est vrai qu'on arrive à avoir des populations très différentes.
Puis final, on a aussi des liens avec les commerçants autour. Ça, c'est plus Anne qui va le faire. Mais c'est vrai que, par exemple, on fait des ateliers à Belgraine, qui est du coup une boutique également qui est située à l'avenue Wilson. On a fait un atelier de tricot, je crois que c'était le mois dernier, aux Libertés. Du coup, il y a aussi ce côté où, forcément, comme on discute avec les autres commerçants, il y a forcément aussi un...
On a une convention aussi avec la LCV. On propose aussi des ateliers à la LCV. Donc on essaye aussi de travailler avec le quartier. Donc le quartier, même si les gens s'en rendent pas forcément compte tout le temps, ils nous soutiennent bien en fait.
C'est clair.
Parce que c'est un noyau dur aussi. Et,
il y a une vraie volonté, quoi.
Et nous, à chaque reprise, là, Covid, on n'a pas eu 10 000 confinements. Nous, on n'en a eu qu'un
et demi.
On ne sait plus trop, mais les gens étaient au rendez-vous direct, quoi. Et donc, je parlais de cette mixité parce qu'elle est vraiment importante, en fait. La vocation d'une ressourcerie, c'est qu'en fait, quand un objet, il arrive, il faut qu'il trouve quelqu'un, quoi. Il faut qu'il trouve son... Voilà, l'idée, c'est de faire correspondre un besoin à un objet. Si les objets arrivent chez nous, ça veut dire que quand l'objet était chez les gens, ils ne savaient pas quoi en faire. Ils ne savaient pas à qui le donner, ils ne savaient pas. Et donc, c'est important que ce soit un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre entre les gens, mais c'est un lieu de rencontre entre les objets et
les gens.
Et les gens. Voilà. L'idée, c'est... On
parle de seconde vie, d'adoption d'objets, quoi.
Ouais, exactement.
vous parlez de réseau de population avec lequel vous entendez bien. J'aimerais élargir la question et savoir si vous êtes en réseau avec les autres ressourceries du département, Nain-sur-Beuvron, Vendôme, etc. Est-ce que, des fois, on pourrait dire, vous communiquez, on a un énorme stock, de mobilier ou de vêtements divers. Là, ça part pas chez nous. Est-ce que vous auriez des besoins? Est-ce qu'il y a des échanges qui se font comme ça? Ou en tout cas, des des échanges au moins verbaux de, voilà, de collaboration. Alors, est-ce que vous rencontrez à l'année, ce genre de choses?
Alors, ouais, je vois bien l'idée idéale d'échange de flux entre structures. Ouais. Alors, nous, on est déjà adhérents du réseau des ressourceries qui regroupe à peu près 170 structures en France.
Au niveau national.
Voilà, donc c'est vraiment un réseau d'entraide, de mutualisation, partage d'expérience entre ceux qui portent des projets et ceux qui ont 15 ans d'expérience. Il y a aussi un gros travail de plaidoyer qu'on fait, notamment autour de la loi économie circulaire, sur les fonds réemploi. Donc c'est hyper important. Et là, on mutualise nos forces aussi avec les réseaux Emmaüs, etc. Mmh,
ouais.
Donc ça, c'est très important. Et après, il y a ce qu'on appelle les initiatives collectives régionales.
Ouais.
Et celle de la région Centre-Val de Loire, c'est le RAR, le réseau des acteurs du réemploi. Et donc, on a souhaité... Alors, la ressourcerie Les Bonnes Manières fait partie de la collégiale qui est dans la gouvernance de ce réseau. En fait, on est à nous, notre structure est à l'origine avec d'autres structures comme la recyclerie de Vendôme, la Triple A à Orléans, les ateliers ligétériens à Tavers, la charpentière à Tours. On fait partie des fondateurs de ce réseau. Et donc, on a des échanges à l'échelle régionale, comme on peut l'avoir au niveau national avec le réseau des ressourceries, sur nos pratiques, etc. Après, il y a aussi une réalité, c'est qu'on travaille plutôt sur des boucles locales.
Ouais.
Parce que si c'est faire des kilomètres à des matériaux, nos déchets, ils sont produits localement. L'idée, c'est de travailler avec et faire en sorte que sur chaque territoire, on fasse des boucles. Ce qui serait super à moyen terme et ce qui se fera d'ailleurs à long terme grâce aussi à la volonté d'Aglopolis, c'est de faire travailler les acteurs du réemploi sur les territoires. Nous, il faudrait qu'un jour, ça va venir, ça arrivera, qu'on travaille en effet avec Vélo 41, ADEPA, Emmaüs, et qu'on travaille en fait sur des boucles locales.
Mmh.
Voilà, donc c'est vrai que les réseaux...
L'idée est de rester vraiment sur le local, c'est-à-dire que l'échange de matériaux n'est pas pertinente avec l'idée d'économie circulaire.
Alors, c'est pas économiquement forcément viable, déjà, de faire comme ça.
D'accord.
Et donc, parce que si on doit faire des kilomètres avec du transport, du temps salarié dessus...
Même
carbone.
Si on reste à une échelle locale, en tout cas, là, je parlais vraiment du département, après, des 3 à 4 aussi... ressourceries qui peuvent exister. Mais oui, tout à fait.
Après,
la question se pose.
Nain-sur-Beuvron, on les connaît bien. Ils font partie, ils sont pas ressourceries, mais ils font partie du réseau des acteurs du réemploi, la recyclerie de Vendôme. Voilà, donc on travaille
c'est
ensemble.
C'est des gens que vous connaissez, évidemment.
Ouais. Oui.
Puis, il faut dire un truc aussi, c'est que, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, Cédric, mais je pense qu'on est tous dans la même situation dans les ressourceries où, en fait, on déborde tous.
Ouais.
Et c'est très compliqué du coup de dire à quelqu'un, excuse-moi, tu débordes peut-être un peu moins que moi,
oui.
Est-ce que je peux te passer une tonne?
Mais... l'idée c'était de se dire qu'on pouvait avoir un échange, surtout pas de récupérer des flux.
Échange, c'est sur la façon aussi. Ouais. Là, on a été visité du coup il y a une semaine, deux semaines.
Ouais, le 30 novembre, ouais, 30 c'était novembre. Pas longtemps.
la ressourcerie de Tavers, donc les ateliers ligitériens. Par contre, là, il y a un échange de savoir-faire aussi, de savoir comment ça fonctionne dans certaines ressourceries et comment on peut s'inspirer du système de certains et puis vice-versa. Après, je pense que sur tout ce qui est afflux de matériel, je pense que sur tous les acteurs du réemploi, on est sur un truc où nos stocks sont quand même plutôt saturés, quoi.
Oui, enfin... et puis par exemple, on parlait des ateliers ligitériens. Eux, ils ont un vrai espace réemploi de matériaux, du bâtiment ou d'équipement, enfin de tout ce qui est autour du bâtiment, ce que nous, on ne fait pas pour des contraintes de place, notamment. Bah, c'est vrai que quand les gens sont à la Chaussée Saint-Victor, etc., bon, ils sont pas hyper loin. Donc l'idée, c'est aussi d'indiquer le bon endroit. Quand quelqu'un a un stock d'ordinateurs et que nous, on n'a pas la compétence, on va plutôt les envoyer vers ADEPA. Pareil pour les vélos. On a des vélos qui arrivent chez nous. Mais quand les gens nous demandent, j'ai un vélo, je sais pas comment le faire réparer, on leur dit, mais...
Vélo 41.
Bien sûr,
oui. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver. Pour l'instant, c'est assez informel, cette histoire de boucle locale. Mais un jour, j'espère qu'on arrivera à fonctionner en réseau. C'est hyper important, cette idée vraiment de travailler avec du local. La production de déchets, elle est locale. On est là pour...
Pour la réguler.
Non, mais pour améliorer la situation de nos déchets localement. Et puis, c'est dire que cette ressource sur les territoires, elle crée aussi la richesse qui va créer nos emplois. Et on est dans le non délocalisable. Si c'est finalement pour rentrer dans un système... de marchandisation avec des échanges de flux qui en effet prennent pas en compte l'empreinte carbone, etc. Ça n'a pas de sens en fait, et on a largement à faire déjà avec nos propres gisements sur nos territoires. Là où c'est important d'échanger aussi avec les autres structures, ça peut être sur avoir plus de force vis-à-vis des des filières de recyclage qui sont souvent des gros mastodontes et nous on est des petites structures face à eux.
Ouais, bien sûr.
Et donc on n'est pas économiquement viable, mais heureusement grâce au réseau des ressourceries on a déjà des conventions nationales qui existent avec nous pour les D3E, c'est écologique.
Les D3E c'est les déchets électroniques du coup.
Oui.
Déchets d'équipements électriques et électroniques,
ouais,
exactement. Mais si on était une structure indépendante, jamais écologique ne viendrait chez nous parce qu'en fait ça leur coûte plus d'argent de venir chercher tout ce qu'on va mettre au démantèlement. Mais heureusement, il y a cette convention. Et c'est là aussi où la boucle est bouclée. Ouais. C'est que le plaidoyer qu'on fait aussi au national, c'est justement pour dire, nous, on veut aussi notre part du gâteau en tant que collecteur. Nous, on veut plus de fonds réemploi. Tout ça, c'est un travail législatif pour lequel nous, on prend notre part face à d'autres lobbies qui, eux, sont aussi très forts. Donc l'idée de réseau, elle est hyper importante, mais ça va vraiment jouer plutôt là-dessus que sur l'échange de marchandises.
Vous parliez de l'activité qui a bien pris depuis plusieurs années, où on voit qu'il y a une vraie intention de fréquenter ce lieu et vos lieux de manière plus générale de revalorisation et de ressources. Quels sont les publics qui viennent à la ressourcerie? Vous avez vraiment, est-ce que entre le moment où vous avez ouvert et aujourd'hui, vous avez vu une différence aussi des publics qui sont venus, des publics qui seraient moins aisés et aux publics plus aisés qui sont rentrés dans une logique de réemploi, de réutilisation, d'achat social et solidaire.
Ouais, on a vu la différence. On était quand même sur des personnes du coup quand même plutôt précaires,
hein, ouais.
sur
qui devaient fréquenter, comme on disait, Emmaüs, le Secours populaire, la Croix-Rouge,
et qui du coup trouvaient un peu leur un espace à la ressourcerie, parce que c'est accessible en bus en fait.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'était plutôt ça au début, et c'est vrai que pour le coup, le confinement, moi, enfin, je vais même dire ce que t'en penses, Cédric, mais moi, c'est vrai que depuis, quand on a rouvert après le confinement, on a eu quand même un autre public.
C'est aussi lié à nos réaménagements. C'est qu'on s'est aussi agrandi à ce moment-là.
Et on a refait la boutique, on a fait un espace vêtements qui était un peu plus proche, enfin plus étalé aussi. Mais c'est vrai que là, on commence à avoir.
Et
quand
qui ressemblait à un standard de boutique, on va dire, peut-être aussi.
Certainement plus. C'est-à-dire qu'avant.
Il y avait un aspect plus commercial, malgré. Désolé pour le mot.
Les vêtements étaient un peu plus en vrac. Ouais. Maintenant, ils sont quand même triés par taille. Mmh. Bon, c'est vrai que du coup, ça donne plus de lisibilité
bien
aussi.
Aux gens, c'est.
Peut-être plus évident.
On en revient à la gestion des stocks et à la bonne utilisation d'un espace restreint et contraint. Ouais.
De l'organisation aussi, du rangement de la boutique qui a été un chantier qui a été quand même plutôt qui a mis du temps à se mettre en place, mais du coup c'est vrai que là je crois qu'on arrive un peu au bout, enfin non on n'arrive pas au bout, on aura toujours des trucs à changer, mais on arrive quand même sur une organisation qui est à peu près claire pour tout le monde, parce qu'il y a aussi, Cédric parlait du fait que du coup on a quand même des bénévoles, des salariés, des personnes en stage, etc. L'idée c'est que la boutique soit lisible pour tout le monde, et comme elle est lisible pour, enfin on a fait en sorte qu'elle soit lisible pour les bénévoles, elle devient finalement lisible pour les personnes qui viennent fréquenter, donc je pense que ça a joué aussi dans le fait que ce soit plus rangé, plus accessible les objets, dans le fait qu'il y a une autre population qui vient aussi à la ressourcerie parce qu'il y a moins de temps pour chiner. Fin.
C'est ça. Mais dès le départ, moi, je trouvais quand même qu'il y avait une mixité quand même des gens. On a un noyau de bénévoles qui sont là depuis le début.
Je parlais au niveau des visiteurs.
Au niveau des visiteurs, mais c'est vrai que en fait, tous ceux qui interviennent à la ressourcerie, que ce soit salariés, bénévoles, stagiaires, il y a un moment, ils sont aussi ambassadeurs du projet et donc ils le défendent autour d'eux.
C'est
et
fait.
Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette mixité de population, elle est plus claire.
Mmh.
Elle existait, mais elle était, voilà, en effet, il y avait peut-être une proportion de gens qui venaient plus pour la question économique au début, qu'on a fini aussi par sensibiliser à la question de la réduction des déchets. C'est-à-dire qu'à force de venir, en fait, les gens, ils comprennent aussi pourquoi.
Il y a eu un inversement. Les populations plus aisées sont venues peut-être pour l'aspect écologique, et on les sensibilise évidemment à l'aspect économique aussi. Et les populations donc, du coup, qui venaient pour une raison économique, effectivement, ont pu être sensibilisées à l'aspect écologique. Enfin, l'aller-retour est intéressant à traiter avec les différentes populations que vous brassez.
Oui, tout à fait. Après, c'est plutôt ceux qui venaient pour l'aspect économique qui se sont sensibilisés à l'aspect écologique. C'est vrai que souvent, les gens qui viennent pour la question écologique sont déjà sensibilisés à la question sociale.
C'est ça.
Oui.
Très bien. Écoutez, merci. Merci beaucoup d'être venu. Donc, on rappelle que le Père Noël a largement de quoi trouver tout ce qu'il faut pour.
Il n'y a pas de pénurie de jouets chez nous.
Voilà, c'est ça. Le plastique est bien traité et il peut être donc réemployé chez vous pour figurer sous le sapin, effectivement, pour cette année et évidemment toute l'année, puisque vous n'êtes pas qu'une boutique, évidemment, qui tourne à Noël. J'en profite également, puisque l'idée de vous de vous inviter. Tenez au fait que certaines des questions que je voulais vous poser ce matin étaient liées à l'émission ESS 117 que l'on diffuse sur Studio ZEF, proposée par Radio Campus Orléans, et qui était la dernière émission que vous pouvez retrouver sur notre site en podcast, était dédiée à la question des achats sociaux et solidaires, et était interviewée des ressourceries d'Orléans. Donc je vous encourage évidemment Cédric et Marie à écouter l'émission.
Avec plaisir.
Et évidemment nos auditeurs à s'en saisir également. Eh bien merci d'être passés Cédric et Marie de la ressourcerie Les
merci
Bonnes Manières.
Merci de nous avoir
reçus. Vous êtes ouverts jusqu'à Noël presque.
Alors presque, on ferme le 22 au soir, le mercredi 22 au soir.
Pour évoluer.
Voilà, donc les derniers cadeaux c'est le 22.
C'est ça.
Après les petits lutins du Père Noël que nous sommes, ils vont se reposer un petit peu et on ouvre à partir du mercredi 5 janvier. Sur nos horaires habituels à partir de 10h le mercredi 5.
Et les soldes, puisque ce sera les soldes le 5 janvier, c'est toute l'année à la ressourcerie.
Exactement.
Voilà.
Ouais,
nous, on ne fait pas les soldes.
On fait des opérations, on ne l'a pas dit, mais on peut faire des opérations de vente au poids.
On peut
faire des opérations à acheter un gratuit. Notamment, on parlait tout à l'heure des saisons de vêtements, sur les intersaisons. Ouais. Voilà, on fait des opérations comme ça, mais non, il n'y a pas de soldes chez nous parce que toute l'année, il faut que ça reste accessible.
Merci beaucoup, bonne fête de fin d'année et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de La Chose Commune. Merci beaucoup.
Merci à vous.